Mes chers amis, nous avons tous entendu parler du sanctuaire de Notre-Dame du Puy-en-Velay. Mais qui connaît l'histoire de ce grand sanctuaire, dont l'origine remonte à l'an 430? Cette date, 430, est parfois considérée comme très symbolique, car 430 est juste un an avant le concile d'Éphèse. Et c'est à la fin de ce concile que la Vierge Marie fut proclamée Théotokos, c'est-à-dire Mère de Dieu, en 431. Mais que s'était-il passé en l'an 430 au Puy-en-Velay, dans le département de la Haute-Loire? Tout simplement, une apparition de la Vierge Marie à une grande malade qui guérit instantanément. Voici le récit de cet événement, récit qui est considéré comme le récit fondateur. La personne qui en fut la bénéficiaire, une noble dame, raconte. À cette époque, j'étais dans les tourments de la souffrance, durement éprouvée par la maladie, alitée, paralysée. Les soins de la médecine ne pouvaient rien pour moi et je n'attendais que la mort. Alors que je m'endormais, je vis un homme debout près de moi qui paraissait s'intéresser à ma santé. Le messager m'engagea à me lever et à monter bien vite sur la montagne appelée Podium, c'est-à-dire le puits. Sur cette montagne, ajouta l'homme qui se tenait près de moi, j'aurai une vision telle que si j'avais la foi, elle me rendrait la santé. À mon réveil, aidé par les miens, j'entrepris la montée du rocher. Avec bien des peines et des difficultés, je progressais peu à peu vers le haut de la montagne. Là se trouvait une pierre, près de laquelle, épuisé par l'effort et la maladie, je me laissais tomber. Soudain, autour de la pierre, je vis une multitude de saints esprits répandus en forme de couronne et au milieu siégeait une reine sur qui rayonnait un diadème d'un éclat divin. Et je demeurai stupéfaite, me demandant qui était cette reine. Comme je continuais à m'interroger sur la vision, quelqu'un de son entourage me dit « Elle est la reine, la dame du ciel et de la terre ». Choisissant ce lieu pour en faire sa demeure, elle y établira d'une façon spéciale la gloire de son nom. Et la voix ajouta, « À toi, en témoignage de cette vision, la reine t'accordera la guérison que tu sollicites. » Ce récit fut confirmé par l'évêque du lieu. C'est la première apparition de Marie dans l'histoire de l'Église. Je vous rappelle l'importance du concile d'Éphèse durant lequel l'Église précisera sa foi concernant le mystère de l'Incarnation. La Vierge Marie fut reconnue comme Théotokos, Mère de Dieu. Peu de temps après l'apparition, l'évêque du lieu installa son siège épiscopal au Puy, qui devint le plus grand sanctuaire marial de toute la chrétienté occidentale du Moyen-Âge. En 950, l'évêque du Puy partit pour faire le pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Le Puy devint ainsi l'un des principaux points de départ du pèlerinage de Compostelle. Au Puy, les fidèles prient beaucoup pour la France. Ainsi, Isabelle Romée, la mère de Jeanne d'Arc, fut invitée par sa fille à y venir en 1429, lors du Grand Jubilé, pour demander à la Vierge du Puy de soutenir son action pour la France. Pendant le Moyen-Âge, outre de simples fidèles, des papes et des rois effectuèrent un pèlerinage au Puy. Aujourd'hui, 500 000 fidèles viennent chaque année dans la cathédrale pour confier à la Vierge Noire tout ce qu'ils ont sur le cœur ou pour renouveler les promesses de leur baptême. Petit rappel, lorsque le 25 mars, jour de l'Annonciation, coïncide avec le Vendredi Saint, comme cela eut lieu en 2016, c'est le jubilé du Puy-en-Velay. Cette coïncidence de date unit l'incarnation avec la rédemption, le oui de Marie à l'Annonciation et le oui de Marie au pied de la croix. Le prochain jubilé du Puy-en-Velay n'aura lieu qu'en 2157. Pour les chrétiens vivant en 2016, ce jubilé de 2016 est donc leur seule chance de participer à cet événement. Voici maintenant quelques petits rappels historiques. Tout d'abord, en ce qui concerne la statue miraculeuse de Notre-Dame du Puy. Ses origines ont donné lieu à des débats, parfois virulents. Mais elle remonterait, peut-être, au Moyen-Âge, probablement au XIe siècle. Certains affirme que cette statue aurait déjà été vénéré par les fidèles dès 980-990. Ce qui est plus sûr, c'est qu'elle existait déjà en 1096, lorsque Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse, fit une vaste donation destinée à la construction de la cathédrale. Le géologue Faujas de Saint-Fons, qui voyagea en Auvergne en 1778, indique que la statue était une Vierge à l'enfant de 72 cm de hauteur, taillée dans un bois dur, vêtue d'un grand manteau d'étoffe d'or. Selon lui, Marie, habillée d'une tunique rouge, portait l'enfant Jésus sur ses genoux. Cette Vierge noire fut présente sur le maître-autel jusqu'au 8 juin 1794, date à laquelle elle fut détruite par les révolutionnaires. La statue actuelle de Notre-Dame du Puy, vénérée depuis le XIXe siècle, daterait du XVIIe siècle et proviendrait de l'église Saint-Maurice du Refuge. Enfin, en 1860, Monseigneur de Molon, avec l'accord de tous les évêques de France, fit sculpter la grande statue appelée Notre-Dame de France. Parlons maintenant de cette cathédrale du Puy-en-Velay. On aurait commencé à l'ériger dès le début du XIe siècle, sur l'emplacement d'un lieu de culte gaulois, le mont Anis, qui évoque la déesse païenne Anna. Un menhir, vénéré par les Gaulois, fut découvert par les archéologues dans les bâtiments du grand séminaire. Plus curieusement, derrière l'abside de la cathédrale, on a découvert une ancienne arrivée d'eau vénérée par les Gaulois. Cette source est actuellement tarie. La cathédrale a traversé l'histoire grâce à des travaux de rénovation, dont ceux qui furent entrepris au XVIIIe siècle. Le sanctuaire marial de Puy-en-Velay fut toujours fréquenté par une multitude de pèlerins, dont certains étaient de grands personnages. On peut citer entre autres Charlemagne, son fils Louis le Débonnaire et son petit-fils Charles le Chauve, puis vinrent Philippe Auguste, Saint-Louis et sa mère Blanche de Castille, Charles VI et Charles VII, Louis XI et François Ier. Le Saint-Siège approuvait les pèlerinages et soutenait ce sanctuaire, considéré par le pape Léon IX comme l'endroit le plus illustre qui soit en France. En effet, on venait de partout au Puy, lieu de pèlerinage universel, et les familles religieuses étaient présentes, les dominicains, les carmes, les jésuites, les capucins et bien d'autres. Par ailleurs, de nombreuses confréries y rendirent de nombreux services, meilleure sécurité, aide alimentaire et spirituelle, organisation des obsèques et accompagnement des pèlerins. À tous ces grands noms, il faut ajouter de grands princes étrangers et même des papes, dont Urbain II, puis Calixte II et Gélas II dans la première moitié du XIIe siècle. Ensuite, Innocent II et Alexandre III en 1162. De grands saints vinrent aussi au Puy, comme saint Dominique, saint Antoine de Padoue, saint Vincent Ferrier, et plus tard, saint Agnès de Langeac, saint François Régis et Jean-Jacques Ollier. Aujourd'hui, des milliers de pèlerins continuent d'affluer au Puy-en-Velay pour prier et recevoir les grâces dont ils ont besoin.